Alors, pour resituer le contexte, moi, je suis psychologue. Donc, alors, je vais vous raconter des choses ce soir. Si ça vous parle, c'est chouette. Si de votre côté, ça ne vous parle pas, on en reparle derrière. Et puis, voilà. Surtout qu'autour des caprices, des colères, il y a beaucoup de choses nouvelles qui sortent en ce moment et qui ne correspondent pas forcément au code qu'on pouvait avoir avant. Donc, voilà. Moi, je vais vous proposer quelque chose. Et puis, bah, vous voyez si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas par rapport à vos enfants, aux enfants que vous gardez, aux petits-enfants. Mais en tout cas, voilà, moi j'avais envie de vous faire passer quelques messages autour des fameux caprices et colères des enfants. Alors, on a choisi ces mots-là, mais en fait, la question du caprice, c'est surtout le regard que va poser l'adulte sur l'enfant qui est en pleine crise. Alors moi, l'image que j'ai dans ma tête, c'est vraiment le supermarché. Je ne sais pas si vous voyez, un enfant qui désigne quelque chose, qui d'un coup le veut, ou en tout cas, c'est comme ça que le parent l'interprète. Le parent dit « bah non, c'est pas le moment » ou « on n'est pas là pour ça ». Puis là, on peut avoir un petit qui se décompose, qui se roule par terre, qui crie. Et on a à gérer en tant que parent quelque chose de bien compliqué. C'est non seulement l'état de son enfant, mais en plus le regard d'un petit peu tout le monde sur cette scène. Et c'est souvent assez compliqué à gérer pour le parent, très désagréable aussi pour l'enfant. Et c'est surtout important à savoir, c'est que l'enfant, dans ces moments-là, dans ces moments de caprice, il ne fait pas exprès. C'est-à-dire que quand les parents ou les adultes en général parlent de caprice, il y a souvent quasiment un regard où l'enfant pourrait un peu provoquer ou des choses comme ça. Alors moi j'ai envie qu'on se dégage un petit peu de ce regard-là et de se dire que l'enfant, surtout que là on parle des petits, hein, là, je parle vraiment des petits, il n'y a aucune notion de provocation ou aucune envie d'enquiquiner le monde autour de lui. Hein. C'est vraiment quelque chose d'assez fort qui le bouleverse et qui le prend là. Et une expression émotionnelle complètement débordante. Et c'est là-dessus qu'en fait le parent va pouvoir s'appuyer, en tout cas va avoir à aider à gérer. Et ce que je renvoyais beaucoup aussi par rapport aux soirées débats autour des colères et des caprices qui sont comment les gérer, le problème c'est que c'est l'enfant qui va avoir à apprendre à gérer un peu plus tard ces débordements émotionnels ou la frustration ou la colère. Nous en face en tant qu'adultes, on va surtout border les choses, et c'est surtout ça dont on va parler. Border les choses et expliquer à l'enfant ce qui se passe pour lui, parce que ça va être là en fait notre travail, parce qu'on va pas pouvoir gérer à sa place ses mouvements de colère, ses mouvements de frustration, sa déception, sa tristesse. On peut pas faire ça pour les autres. On aimerait bien, hein, ce serait plus simple de gérer tout seul le supermarché et de pas demander des choses ou d'être très attiré par les couleurs, par tout ce qui défile autour de soi. Sauf que voilà, ça va être vraiment l'enfant qui va apprendre à gérer, mais par contre en tant que parent, il y a vraiment, en tant que parent, en tant qu'accompagnant, en tant qu'adulte auprès de l'enfant, il y a vraiment des choses qui vont aider l'enfant à se border et à comprendre ce qui se passe autour de lui. Voilà, c'est autour de ces axes-là, moi, que je vais m'orienter ce soir. Et une chose importante, c'est aussi parler de ce qui se vit pour le parent. Parce qu'on a parlé de l'enfant, de ce qu'il va le traverser, ça, je vais un petit peu dépiauter tout ça. Mais il y a aussi le parent, ce qu'il est en train de vivre en situation de crise. Et ça aussi, il y a des choses bien spécifiques à parler. Et le dernier point, ça sera vraiment comment se positionner, quoi faire, comment se dépatouiller avec ces histoires de colère et de caprice. Voilà à peu près comment je vais orienter les choses. Alors déjà, je vais vous demander de vous mettre un peu en situation. C'est-à-dire vous, en tant qu'adulte, en situation de colère. Alors moi, j'ai un exemple là, qui vient de m'arriver. Je suis en voiture, je suis en retard, je ne trouve pas de place. On pique ma première place que je trouve. Vous voyez comment ça se passe, ça nous prend au trip quand même, hein. Ces moments-là, ça prend à la gorge, la moutarde monte, on a envie de... Voilà. Bon, quand on est dans sa voiture, on peut se lâcher, on peut être tonique, on peut taper le volant, on peut balancer quelques insultes aussi, hein. Voilà, on est aussi dans un cocon. Déjà, je trouve qu'en tant qu'adulte, c'est pas évident à gérer. On peut être plus ou moins face aux sensations corporelles, face à l'émotion que ça nous renvoie, on a appris à gérer, mais on sent quand même que c'est quelque chose de fort qui se passe en nous. Là, il faut resituer sur un petit enfant. Ça veut dire que là, il a encore tout à construire et il est lui-même parfois très étonné par les sensations qu'il va ressentir. Ça veut dire que quand il est en situation où il y a quelque chose qu'il demande et qu'il y a un refus, ou que lui, il a... Parce que derrière les caprices, il y a une demande, mais il peut aussi y avoir un inconfort somatique. Hein. Un enfant fatigué, un enfant malade peut être un enfant qui peut rentrer plus facilement dans un état de crise. Il peut y avoir aussi une incompréhension. L'enfant qui veut dire quelque chose qui n'arrive pas parce qu'il a encore des soucis pour communiquer, parce qu'il n'a pas le bon mot, parce qu'il ne sait pas comment dire les choses. Ça aussi, ça peut être des situations qui peuvent mettre un enfant en état, on va dire, de crise émotionnelle ou de tension émotionnelle. Donc bref, il y a tous ces états-là. Et là, l'enfant, il se retrouve vraiment submergé. C'est vraiment un état... Il faut vraiment se dire ça. C'est-à-dire qu'en face de nous, il y a une vraie... Il y a certains disent tempête émotionnelle pour les enfants, mais c'est vraiment ça qu'on a à faire. Il y a un petit corps, qui est un cerveau qui n'est pas encore en mesure de gérer tout ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, faire appel à la rationalité d'un enfant. Ça, vous dire, bah, tu te rends compte que tu es dans cette situation pour telle raison. Voilà, en face, vous n'allez pas avoir de répondant parce qu'un enfant n'a pas encore un cerveau rationnel. Il n'est pas du tout dans cette compréhension du monde. Il a un cerveau plutôt pulsionnel. Et ça, c'est en grandissant avec l'aide de ses parents, en se frottant à certaines expériences, en explorant, qui va réussir petit à petit à construire un rapport au monde plus pulsionnel, mais avec aussi l'idée qu'il y a quelque chose de plus rationnel, mais aussi un principe de réalité, on dit. En fait, je ne sais pas si ça vous parle quand je vous dis ça, on pourrait dire que l'enfant, quand il arrive au monde, il est plutôt dans un principe de plaisir. Hein ? D'ailleurs, le tout petit nourrisson... on ne dit pas qu'il fait des caprices, hein, il pleure, c'est qu'il a faim, il faut le changer. Enfin, en tout cas, on essaie de trouver, de décoder ce qui se passe pour lui, parce que lui, il a faim, il ressent des sensations, il a mal, donc il attend en répondant en face qu'il réconforte. Il a mal quelque part, il faut qu'on le berce. Il a besoin d'être contenu physiquement, il faut qu'on le prenne, il faut qu'il ait de la tendresse. Mais voilà, lui, c'est comme ça qu'il va communiquer. L'enfant, en grandissant, petit à petit, il va réussir à inclure ce principe de réalité, mais il va falloir aussi, en tant qu'adulte, qu'on lui propose, qu'on lui explique, et parfois, qu'on l'aide à passer à autre chose quand ça arrive. Donc, elle nous en parlera mieux que moi. Hein, bon. Mais oui. Donc, alors, pour sortir... attendez, je tourne ma page, parce que j'ai... Donc, le principe de réalité, le principe de plaisir. Donc, ne pas faire appel à quelque chose de rationnel chez l'enfant, mais plutôt se dire, là, il est en train de vivre quelque chose, et là où il va y avoir surtout un rôle à faire, c'est contenir. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même si à un moment donné on cède ou on donne ce que l'enfant voulait, l'enfant ne sort pas pour autant de sa crise du tout. En fait, c'est ça y est, c'est la crise, elle est partie, il y a la sensation qui est l'émotion qui est là. Même si on essaye de dire, en fait, c'est ça que tu voulais, je te le donne, l'enfant, la plupart du temps, le réflexe, c'est le point, il jette. C'est que de toute manière, c'est plus possible. C'est d'ailleurs même plus ça le problème. Ce qu'il va y avoir à gérer, c'est surtout l'état de tension de l'enfant pour l'aider à se calmer. Et voilà. Il y a autre chose qui est aussi importante parce qu'on repère statistiquement des âges où les enfants font plus de crises. Voilà. C'est autour des 1 an et demi, 2 ans, 3 ans. Et ça, c'est une phase qui est bien connue dans le développement de l'enfant. Ça s'appelle la phase d'opposition, la phase du... Ça vous parle ? Voilà. En fait, avant, c'est nous qui allons avec non, touche pas si, non, 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 non. Bon, à un moment donné, il apprend les mots. Hein. Donc, il nous les redonne, les noms. Et c'est une phase qui est très compliquée en tant que parent, parce que c'est pas évident. On passait d'un petit enfant qui est plutôt faisant, ça veut dire qui est très en lien, qui est beaucoup dans les câlins, qui est beaucoup dans quelque chose, qui est faisant dans le sens où qui est vraiment très proche de son parent. Et arrive à un moment donné, il va commencer à s'opposer. Et c'est là-dedans qu'on peut aussi, souvent des parents parlent de caprice et de colère, mais ça correspond vraiment à cette phase d'opposition aussi. Où bizarrement, alors qu'il adore prendre un chocolat chaud ou quelque chose, et on lui propose au goûter, il dit non, alors qu'on sait qu'il veut. Alors, c'est un peu incompréhensible, parce qu'il y a une espèce de truc bizarre qui se passe, c'est qu'il veut pas, il dit non, et en même temps, ça ne met pas bien de dire non, et en face, on ne sait pas trop comment réagir. En fait, la manière d'entendre cette fameuse phase du non, ça serait « je dis non, pas à ce que tu me proposes, mais parce que tu me le proposes ». C'est très particulier. Hein. Et souvent, ça correspond aussi à un besoin de l'enfant d'autonomisation. Ça veut dire qu'il faut se dire que si l'enfant s'oppose, c'est qu'il a aussi commencé à développer des vraies capacités pour lui à faire seul et qu'il supporte difficilement qu'en face, on fasse à sa place. Donc c'est souvent des âges où il faut réussir soi-même à bouger un peu son positionnement en tant que parent ou en tant parce que va falloir lui laisser un peu plus d'espace. C'est-à-dire que alors, en fait le chocolat chaud, ce qu'il veut, c'est peut-être mettre le lait dans la tasse, mettre la poudre, touiller et après on fait chauffer. Et là il va vouloir le boire son chocolat. Alors là pareil, ça demande aussi en tant que parent peut-être de supporter qu'il y ait un petit peu de lait sur la table, que ça soit pas fait parfaitement comme nous on le ferait. Mais parce que voilà, va falloir qu'il fasse ses apprentissages. Ça veut dire aussi que, alors c'est pas tant de la négociation, parfois de la diversion, c'est-à-dire qu'il y a aussi souvent le moment où l'enfant ne veut pas mettre son manteau pour sortir, ou ne veut pas s'habiller. Enfin, tous les moments où l'enfant peut s'opposer avec son corps, il va les utiliser pour montrer son opposition. Et montrer aussi surtout que, je suis là et je ne ferai pas tout ce que tu veux, parce que moi, mon désir, c'est pas forcément le même que tien. Donc, j'ai bien montré qu'on n'est pas les mêmes personnes. Et c'est hyper important. Si un enfant ne passe pas par cette phase-là, souvent, c'est un peu plus compliqué par la suite. Donc, c'est plutôt bien qu'il passe par cette phase. Ce n'est pas facile du tout, mais c'est plutôt bien. Et ce qu'on conseille aux parents, c'est aussi d'aménager l'espace. Ça veut dire bah, peut-être qu'il faut penser à des porte-manteaux à hauteur de l'enfant. Il faut lui laisser aussi la possibilité de vaquer à son autonomie lui-même pour ne pas se retrouver confronté à un état de crise parce que bah, au moment où on lui dit de mettre son manteau, en même temps, c'est à nous d'aller chercher le manteau parce qu'il n'est pas à sa portée. Vous voyez, des choses comme ça. Ou lui laisser des choix aussi sur des choses qui sont possibles. Ça veut dire bah, plutôt t-shirt bleu, plutôt t-shirt vert, enfin, des éléments comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier que l'enfant se retrouve dans une posture de petitesse. Hein. Enfin, nous, voilà, on gère les choses, on s'habille tout seul. Mais pour un enfant, ça peut être vraiment une situation, un ressenti vraiment de bah, « je suis tout petit, je ne vois rien enfin, ». Ça peut être douloureux. Moi, j'ai vu une fois un petit garçon en état de crise, hein, parce qu'il ne peut pas conduire une voiture. Mais je vous jure que c'était une vraie, c'était pas du chiquet, hein, c'était vraiment, je peux pas encore le faire, je suis trop petit, c'était très difficile pour lui de se rendre compte qu'il y avait des choses qui étaient encore impossibles et qu'il ne pourrait pas faire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, à entendre que pour l'enfant, c'est vraiment dur d'être petit et de pas réussir à faire les choses. Donc plus on va lui laisser d'espace dans les choses qu'il sait faire, plus ça va le valoriser, plus il va prendre en confiance. Et là, sur les moments justement de crise comme ça, ça va beaucoup s'assouplir. Ça veut dire que bah, tu ne veux pas mettre ton manteau, bah, alors regarde dehors, il fait quel temps. On met plutôt quel manteau quand il y a du soleil. Tiens, regarde, cherche, plus tu prendrais plutôt. Voilà. Et puis vous, en plus, en tant que parent ou en tant qu'accompagnant, ça met un petit peu de distance, on ne va pas au frontal, quoi. À ces âges-là, le frontal, souvent, ça pète. Hein. Voilà. Par expérience, de ce que j'ai pu observer, c'est souvent comme ça qu'on peut justement amener l'enfant à continuer sa posture de refus ou d'opposition. Voilà. Donc la phase d'opposition, elle est normale, obligatoire, j'ai envie de dire, et elle est nécessaire pour que l'enfant apprenne à se construire lui et se différencie de son parent. Ça commence déjà. Ok. voilà. Donc, disons que ce que le parent a à faire dans ces moments-là, je repense à tout ça. En conclusion, c'est donc déjà de comprendre les moments de besoin d'autonomisation, les accompagner. Se rendre compte que c'est pas évident d'être petit, de pas savoir faire les choses. Et peut-être aussi, des fois, on peut pas résoudre ce problème. Hein. Le petit garçon qui veut conduire une voiture, il va pas pouvoir la conduire. Hein. Mais peut-être lui renvoyer qu'on comprend que c'est pas facile de pas pouvoir faire les choses, qu'il doit être triste, qu'il doit être déçu. Parce que l'enfant, c'est pareil. Lui, pour le moment, des tout petits, comme je vous disais, ils sont pris par une vague émotionnelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de digue interne, mais surtout, il n'y a pas de mots ni de représentation. Ça veut dire que vous allez lui en fournir. Des mots, la déception, c'est quoi? La tristesse, la colère, qu'est-ce qui se passe quand on est en colère dans le corps? Qu'est-ce qui se passe quand on est triste? Qu'est-ce qui se passe quand on est content? Tout ça, il va l'apprendre avec vous, à votre contact. Et une fois encore, l'imitation, c'est comme ça que les enfants apprennent. Donc pareil, si on est quelqu'un de très colérique, bah peut-être qu'on va avoir un enfant qui va réagir un peu sur le même mode. Si on est quelqu'un qui est plutôt très calme, très posé, des fois on peut avoir aussi des enfants qui sont sur le même mode. Bon, voilà, se dire aussi que nous, ce qu'on va proposer en général aux enfants, voilà, ils vont nous regarder, hein. Et là, je peux vous assurer que vous allez avoir un retour sur la manière dont vous-même, vous pouvez gérer certains moments de vie. Donc voilà, ce qui se passe un peu pour le petit, pour qu'on se rende compte un petit peu aussi de la tempête qui se vit à l'intérieur de son petit corps et de son cerveau. Et alors maintenant, ce qui se passe pour les parents. Alors souvent, les états de caprice, hein, c'est vraiment très douloureux et très douloureux pour les parents. C'est-à-dire que non seulement il y a l'enfant qui va mal, mais en tant que parent, il y a un sentiment d'impuissance très fort. C'est-à-dire, comment je fais? Par quel bout je prends les choses? Il y a aussi l'idée d'un vrai défi éducatif. Il ne faut pas que je cède. Alors, c'est quand même quelque chose qu'on entend. Il ne faut pas céder, il faut tenir à tout prix. Surtout si on est face à... Voilà, je parlais du supermarché, mais il y a aussi les scènes qui se passent pendant les repas de famille, où on a le regard du beau-père, de la belle-mère, de la tatie, du tonton. Enfin bref, où tout le monde y va de la manière dont il ferait. C'est aussi ça, on a aussi affaire à ça. Et comment bah, tout ça vient envahir le parent et parfois le complètement... le mettre en difficulté dans la manière dont il va intervenir. Ça veut dire que il est lui-même envahi par plein de conseils ou plein de regards ou un manque de confiance, une mésestime qui arrive comme ça. Et bon, alors là, dans ces cas-là, comment résoudre ça? Ça devient impossible. En tout cas, ça devient compliqué. Moi, ce que je peux conseiller dans ces moments-là, c'est vraiment de se dire ce qui concerne l'enfant, concerne son parent, et c'est une histoire entre l'enfant et son parent. Que ce soit au supermarché ou une réunion de la belle famille, pourquoi pas, enfin, au supermarché c'est plus compliqué, mais ce qui peut se faire c'est qu'on prend l'enfant, on se déplace, on va à un endroit, si on sent que là, c'est pesant les regards autour de nous, voilà, on crée un espace où là on peut discuter. Et se dire aussi que le parent en face, il a tout pour réussir à calmer son enfant, à l'apaiser. Pas forcément en s'aidant, mais justement en s'ajustant à là où il en est au niveau de ses émotions. C'est vraiment le plus important. Ça veut dire que, par exemple, on conseille vraiment de contenir et câliner les enfants. C'est très bizarre, on aurait validé, fait une scène. Mais au contraire, de venir contenir. Alors, il y a déjà contenir, ça veut dire que quand les enfants sont en train de se rouler par terre et partir aussi dans des gestes qu'ils ne contrôlent pas, c'est-à-dire qu'il y a l'enfant, il commence à se désarticuler, là, il perd complètement le contrôle. Il faut rassembler. Et la contention, le câlin, ça permet vraiment de rassembler. Et puis ça permet aussi de garantir à l'enfant qu'il y a un lien, qu'on peut se mettre en colère, qu'on peut piquer des crises, mais pour autant pas perdre le lien d'affection et la tendresse de son parent. Ça veut dire, bah ok, bah tu fais ta crise, ça va pas, tu voilà, mais je suis là, quoi. Je vais être là, je vais pas te laisser exploser, parce qu'il y a aussi, comme je vous le disais au début, hein, l'enfant peut être aussi d'un coup très paniqué par ses propres sensations. Et alors là, la demande du début, elle est complètement oubliée. C'est plutôt, oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi ? Je déborde. Se rouler par terre, se taper la tête contre les murs, c'est un moyen pour l'enfant de se récupérer. Sachez que s'il est pris dans vos bras et contenu, il se récupérera bien beaucoup, beaucoup plus vite qu'en se tapant la tête ou en se roulant par terre. C'est une chose importante à savoir. Et du côté des parents, bah, je pense que tout le monde a son petit travail à faire pour réussir à faire baisser l'idéal. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas de parents... De parents idéaux, il n'y a pas de bonne manière d'éduquer, il n'y a pas une bonne manière d'être pour un enfant aussi. L'enfant, il a sa façon d'être à construire, il a ses expériences, les expériences auxquelles il va être confronté. Donc il va aussi, à un moment donné, réagir à ce qu'il vit. Et là, dans ces cas-là, l'image qu'on peut avoir d'un enfant qui sourit tout le temps, qui est tout le temps heureux, l'idée qu'on pourrait avoir en tant que parent, va être confrontée à la réalité. Non, des fois, on va avoir un enfant triste, un enfant déçu, on ne va pas toujours pouvoir lui faire plaisir, on ne va pas toujours réussir à comprendre ce qui se passe aussi. Parce que là, je vous parlais des états de crise où des fois, on peut comprendre ce qui se passe, mais des fois, on reste aussi assez, j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé, pourquoi ce moment-là est plus compliqué que d'autres. Se dire qu'on n'est pas obligé de réagir dans l'immédiat. La réaction dans l'immédiat, c'est contenir, apaiser comme on peut, calmer. Mais on peut prendre le temps de réfléchir, pourquoi à chaque fois que j'arrive chez la nounou, ça part dans cet état-là ? Tiens, pourquoi à chaque fois qu'un tel arrive, il y a quelque chose de bizarre qui se passe ? Ou pourquoi à cette heure-là spécifiquement, il y a tout le temps... Voilà. Et puis petit à petit, on réfléchit, puis on trouve un peu des solutions en questionnant les autres, ou en observant son enfant, en lui posant des questions. Voilà. Alors, on va partir vraiment sur le point gérer, intervenir. Déjà, il y a la crise, mais il y a aussi tout l'amont. Ça veut dire, un enfant, c'est pas qu'un enfant qui va faire des crises. Il y a d'autres moments à passer avec lui. Et se dire aussi que tous les moments passés avec lui, de jeu, de lecture, des moments privilégiés avec lui, vont aider à renforcer l'enfant dans sa confiance en lui et peut-être l'aider à plus facilement passer à autre chose dans les états de crise. Vous allez plus facilement apaiser, calmer votre enfant si en effet vous avez déjà beaucoup de liens avec lui autour de moments passés, vraiment une complicité aussi qui s'est faite sur ces moments-là, qui vont pouvoir très rapidement rétablir l'enfant dans le lien après un état de crise un peu explosif. Comme je vous disais tout à l'heure, lui laisser aussi une autonomie, des choix. Regardez où il en est dans ses apprentissages. Est-ce qu'il sait mettre son manteau tout seul, ses chaussures? Est-ce qu'il est capable de s'habiller un peu seul, capable de se brosser les dents tout seul? Est-ce qu'il peut débarrasser la table, mettre la table? Comment il peut participer aussi à la vie pour pas qu'il soit toujours mis en position passive, pour qu'il prenne un peu aussi sa place et, au sein de la famille. Et puis se rendre compte aussi, comme je disais tout à l'heure, qu'on est aussi un modèle, la manière dont on va gérer les événements de la vie. Lui, il va les voir, va les observer. Donc se rendre compte de ça aussi. Moi, ce que je vous propose aussi, c'est de passer par des livres, passer par d'autres supports parfois pour reparler des colères. Pourquoi pas les rejouer avec des Playmobil? Pourquoi pas faire une pâte à modeler pour modéliser la colère, jeter les choses qui sont autorisées à jeter. Voilà, peut-être aider aussi à décharger des moments donnés les choses pour l'enfant. Quand on connaît aussi quand on sait les moments aussi un peu charnières, c'est-à-dire anticiper, peut-être trouver un moyen de détourner en passant par le jeu ou d'une autre manière, comme je vous disais, pour aller dehors, quel temps il fait dehors, quel manteau on met. Voilà, essayez de trouver des stratégies, vous connaissez bien vos enfants, donc vous allez trouver un moyen de réussir à l'amener d'une autre manière à faire quelque chose. Pas que dans le fait, mets ton manteau, mais pourquoi on met un manteau? Voilà, ça c'est des choses qui peuvent fonctionner. Informer aussi le déroulement d'un programme. L'enfant, s'il ne sait pas où il va ou ce qu'il fait, il peut être en état un peu de panique. Border les choses, on va faire ça, après ça, ça. Ou si on va faire les courses, ce qui est un moment quand même assez compliqué, donner des missions à l'enfant. Je sais pas, le petit caddie, faut que tu trouves ça dans le magasin. Parce que là, pareil, la position de passivité dans le caddie, avec plein de choses qui défilent, ça peut être, ça peut aussi être, mine de rien, pour l'enfant, pas si simple. Et du coup, il se raccroche à ce qu'il voit. Et puis, et du coup, là, il a du mal à gérer. Et surtout aussi, ce qui est important, c'est qu'un enfant qui pointe, c'est pas forcément un enfant qui veut. C'est-à-dire que des fois, il y a des moments de caprice qui commencent dans les supermarchés parce qu'un enfant pointe à un paquet de bonbons et que le parent dit non. Un enfant peut pointer pour savoir ce que c'est. Et peut-être qu'on peut utiliser ça, se dire, bah oui, les bonbons, ils sont jolis, t'as vu les couleurs, ça me rappelle la couleur. Voilà, parler de l'objet. Montrer, c'est pas forcément vouloir pour soi tout de suite. Je crois que c'est moi. Je suis désolée. Voilà. Sur le moment de la crise, essayez d'observer, attention à la surenchère, gardez votre calme. Si vous avez une voix posée, l'enfant va s'ajuster automatiquement à la voix. Si on crie, l'enfant va s'ajuster, donc va crier. C'est vraiment, d'ailleurs vous-même quand vous êtes en colère, si en face de vous, on vous crie dessus, vous allez monter, en face de vous, vous avez quelqu'un de calme, vous allez automatiquement poser la voix. C'est des réflexes qu'on a c'est vraiment de l'ordre du réflexe. Le câlin, je vous disais. La diversion, parfois aussi, à travers le jeu, ça peut fonctionner. Avant que la crise ne soit très explosive, ça peut fonctionner, passer par le jeu. Ou tiens, bah, si on allait chercher autre chose, tiens, si on allait peser les légumes, je te donne les bananes, tu vas les donner à la dame, plutôt que voilà, te rouler par terre, ça sera plus intéressant pour toi. Voilà, et la diversion, ça peut fonctionner. Et ce que je vous disais, hein, ça concerne votre enfant et vous, hein, même si vous êtes dans un supermarché, prenez le temps. C'est-à-dire, prenez le temps, ça peut peut-être prendre 10-15 minutes, mais ça ne sera jamais du temps perdu. Ça veut dire que voilà, prenez le temps d'essayer d'être avec lui, de comprendre ce qui se passe et de contenir l'émotion qu'il est en train de vivre. Là, c'est. Et au bout d'un moment, l'enfant passe à autre chose. C'est-à-dire que ça aussi, il y a l'après-crise. C'est-à-dire c'est toujours étonnant la rapidité à laquelle les enfants passent à autre chose derrière. Et bah, c'est plutôt bien. Vous voyez, c'est que c'est passé. On ressasse pas ça pendant des heures ou à la maison. Voilà, bah, ça y est, la crise, elle est passée, elle est gérée, ça va mieux. Voilà. Et quand c'est possible aussi d'en reparler un petit peu après, on en reparle, mais dans la mesure de l'enfant, si vous voyez qu'il est déjà complètement passé à autre chose, voilà, ça va être à vous d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et d'essayer d'anticiper les prochaines fois. Voilà, ça c'est un job à faire. Voilà, et une chose importante, si vous avez des reproches à faire, si l'enfant a frappé, mordu, les choses comme ça, bon, il y a des sanctions parfois à poser, mais surtout ne pas limiter l'enfant à ce comportement. Ça veut dire l'émotion. L'émotion, elle était peut-être naturelle, la colère, la tristesse, la déception. Il a bien le droit de la ressentir. Par contre, ce qui est interdit, c'est de frapper, de taper et de s'en prendre aux objets ou aux gens autour. Là-dessus, on peut intervenir, on peut sanctionner, mais pas sur l'émotion. Parce qu'après tout, être débordé par ses émotions, être en colère, ça reste assez naturel. Par contre, en effet, agresser, taper, là, c'est quelque chose qui est interdit. Il y a des règles, d'ailleurs, par rapport à ça. Donc voilà, bien de faire la distinction entre ce qui est à condamner et ce qui est, bah ça par contre, t'as bien le droit de désirer des choses, de vouloir des choses, par contre t'as pas le droit de balancer des choses comme ça dans un magasin ou d'insulter. Voilà. Puis voilà, retourner, voilà, puis là, que ça continue quoi. La vie continue, il y a une crise, mais hop, c'est pas un enfant qui fait une crise n'est pas un enfant capricieux pour toujours. Voilà. Et je crois que j'ai passé. Bah ouais, je pense que j'ai des choses que j'ai pas abordées, mais dans les questions, peut-être il y a des éléments qui pourront venir. Je bois un coup par contre.
Donc je coupe.